Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous avez écouté Michael Jackson et U2 sur un Walkman à cassette Sony Sport. Bonjour, 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 bonjour. Oui, c'est Bertrand, votre coach web. Allez, je continue dans mes accroches un petit peu vintage, on va dire, hein, après Miga l'autre jour qui en a fait rire certains, j'ai eu des retours. Aujourd'hui, oui, rappelons-nous quand même qu'il fut une époque où nous avions des cassettes audio pour écouter de la musique. Et à l'époque, probablement l'ancêtre du podcast, hein, parce que vous pouviez enregistrer facilement. Enfin, je dis facilement, oui, on pouvait enregistrer facilement un bout de son sur une cassette et diffuser la cassette. Hein. Il y avait des magazines audio qui existaient à l'époque, c'était les ancêtres du podcast. Et aujourd'hui, je voudrais justement vous parler de podcast, et notamment d'un nouveau podcast que j'ai créé cet été qui s'appelle Kilomètre 42, enfin, ou KM42 hein, dans les initiales, qui est un podcast consacré à la course à pied. Alors voilà, vous savez... Je vous l'ai dit, je prépare un marathon, il est dans 16 ou 17 jours maintenant, ce week-end là j'ai 3 entraînements, là, ce soir, demain et après-demain, et j'ai voulu faire un podcast pour parler de la course à pied, du running, de la préparation marathon, du trail, mais aussi de ma philosophie du sport. Mais le sujet du jour n'est pas vraiment ce podcast en lui-même, et plutôt le fait que je l'ai publié sur Encore.fm, que j'utilise le service Encore.fm pour l'enregistrer et le diffuser. Alors Encore.fm, c'est un service dont je vous ai parlé l'an dernier, en août dernier, c'était l'épisode 52, hein. Si vous voulez le retrouver c'est facile, vous faites votrecoachweb.com/52, vous tombez directement dessus, c'est un épisode que j'avais enregistré en mobilité à l'époque, puisque c'était des épisodes que je faisais alors que nous étions repartis en vacances, et je devais le faire tranquillement au bord de la mer, voilà, les pieds dans le sable, hein, je me revois un matin comme ça, en train de l'enregistrer. Alors, depuis, l'application a fortement, fortement évolué, c'est vraiment plus vraiment la même application, même si le look général ressemble, on est passé d'une application qui était plutôt de la story audio, hein, du Snapchat audio, un véritable service de production de podcasts, un véritable service de production et d'hébergement de podcasts. Alors, Encore.fm, c'est quoi? C'est un site, une application mobile hein, pour smartphone et tablette, qui vous permet d'écouter des sons et des podcasts, et qui vous permet aussi d'en créer. Alors, autant vous dire, moi, je suis pas très fan de leur manière du système d'écoute. Hein, moi, je suis assez dans mes applications de podcast classiques. Je sais pas ce que vous écoutez, avec quelle application vous écoutez vos podcasts d'habitude. Moi, pour Encore.fm, le problème de cette application-là, c'est que je la trouve pas très pratique, et puis bien sûr qu'elle vous permet d'écouter que des podcasts qui sont créés avec Encore.fm. Par contre, la création de podcasts est vraiment très intéressante, et ça répond à une problématique, parce que on me pose souvent la question, j'ai encore eu des discussions hier sur Instagram, en direct, etc., sur... c'est comment est-ce qu'on fait pour héberger un podcast, où est-ce qu'on l'héberge, comment on peut le faire, comment on peut le créer, comment on peut mettre des sons, vous voyez, toutes ces petites difficultés, et c'est incroyable, mais Encore.fm vient répondre à tout un tas de problématiques autour de ça. Alors, c'est leur credo, c'est de dire, on vous facilite la création, vous pouvez devenir podcasteur en quelques secondes, et c'est vrai que là-dessus, le pari est réussi. La création d'un podcast est facile sur votre ordinateur, votre smartphone ou tablette, avec les applications, vous créez un compte au nom de votre podcast, vous créez un podcast en quelques secondes en mettant son nom, description, une photo, voilà, tout simplement, une grande photo pour que ça apparaisse dans les catalogues de podcasts, et encore, va faire le reste, c'est-à-dire qu'ils vont gérer la partie technique qui va se passer derrière, ils vont vous créer une page d'accueil pour pouvoir écouter votre podcast, pour pouvoir le partager, ils vont gérer tout ce qui est flux RSS de diffusion, etc. Ils vont aussi vous fournir des fonctions très très puissantes pour la création du podcast, et là, c'est là vraiment qui est le point le plus intéressant. c'est que vous pouvez enregistrer directement sur l'ordinateur. Alors, ne le faites pas sur Safari. Je me suis rendu compte, ça marchait pas sur Safari si vous avez un Mac. Par contre, ça marche très bien sur Chrome. Vous pouvez enregistrer directement le son sur votre ordinateur, un smartphone, une tablette, avec les applications qu'ils ont. Mais vous pouvez en fait enregistrer votre fichier son avec n'importe quelle application et l'importer ensuite à l'intérieur. L'application comprend ensuite des petits outils pour modifier directement le fichier. Vous pouvez couper, ajuster la longueur d'un son, enlever ce qui ne va pas, etc. Donc retravailler le son assez facilement. Et puis les applications sont assez bien faites et le site aussi le permet. C'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir créer un épisode avec des séquences. Vous pouvez créer séquence par séquence, donc des petites séquences, par exemple une petite séquence d'intro, une séquence plus longue, mettre des transitions entre les séquences, mettre de la musique, du son entre ces séquences. Vous pouvez même mettre tout un tas d'autres éléments. Alors par exemple, vous allez pouvoir mettre des nappes sonores en fond, vous savez, pendant que vous parlez. C'est une fonction intelligente. La nappe sonore démarre à plein volume au départ et puis le son baisse quand vous commencez à parler. Elle s'ajuste au volume de votre voix, ça tourne en fond sur le segment et puis à la fin, quand vous arrêtez de parler, dans les dernières secondes, ça va remonter pour revenir au son maximum, ou faire une sorte de outro, comme on pourrait appeler ça, et puis ensuite ça baisse vraiment dans la dernière seconde du podcast. En fait, c'est ce que je fais dans mon logiciel de podcast, mais sauf que moi je le fais manuellement, enfin j'ai un modèle de fichier avec lequel je le fais tout le temps, et ben eux ils vous le font pour vous. Vous pouvez aussi ajouter donc des transitions, des petits bruitages, vous pouvez aussi ajouter des musiques venant de Spotify ou Apple Music. Attention par contre, c'est qu'à l'export, elles ne seront disponibles que dans Encore, elles ne sortiront pas d'Encore. C'est-à-dire que si votre podcast est écouté en dehors d'Encore, et ben ces musiques-là, les droits ne sont, je pense qu'ils vous payent, ils veulent pas vous payer les droits pour vous, tout simplement. Et donc là, le son n'est pas disponible. Il y a d'autres fonctions. Il y a une fonction de répondeur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vous envoyer un petit son. C'est-à-dire que sur kilomètre 42, quelqu'un pourrait m'envoyer un son directement par Encore, l'enregistrer par Encore, se créer un compte sur Encore, l'enregistrer, me l'envoyer, et moi je pourrais l'intégrer, lui répondre, et donc là on a vraiment une partie vraiment faction répondeur. Si vous voulez faire des foires aux questions, mon Ask Bertrand par exemple pourrait marcher comme ça. Vous savez que moi je gère par Big Spype, je sais plus dans quel sens on le met, mais sur mon site internet, sur le site votrecoachweb.com, vous avez une page pour me poser des questions en audio si vous le voulez. Et bien sûr Encore, c'est une fonction qu'ils ont intégrée directement. Et puis j'ai oublié, mais c'est ainsi très intéressant, ceux qui voudraient faire du podcast à plusieurs, et ben vous pouvez le faire directement à plusieurs, directement avec l'application, puisqu'elle est capable d'enregistrer une discussion entre des personnes. Il suffit que vous ayez tous l'application Encore, et puis vous pouvez vous parler tous ensemble. Bref, Encore rend la création du podcast extrêmement facile, et pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste un outil qui va vous générer un fichier audio, c'est un outil d'hébergement. Il héberge votre podcast gratuitement et sans pub. Alors la petite pub, il y en a bien une à la fin du fichier de podcast, mais vous pouvez la désactiver. Donc vous pouvez l'enlever, donc en fait ça devient complètement transparent. De même que vous n'êtes pas obligé de mettre l'image, le petit logo Encore sur la vignette qui va apparaître dans les catalogues de podcast. Moi je l'ai laissé. Sur kilomètre 42, j'ai laissé pour une raison simple, c'est que vous repériez si vous écoutez que ça vient de Encore, parce que pour moi c'est important en tant que créateur de contenu de vous montrer comment je teste la plateforme, comment je l'utilise. C'est plutôt un symbole pour vous montrer que je teste des nouveaux services, comment je les teste, ce que j'en fais, etc. Alors l'autre gros point fort, c'est le partage sur toutes les plateformes. Là vraiment, ils ont fait un système, on peut pas faire plus facile. Je ferai un épisode bientôt parce que j'ai une question sur comment est-ce qu'on fait connaître son podcast, comment on peut l'enregistrer sur d'autres plateformes, par exemple est-ce qu'on peut l'enregistrer sur Deezer, sur Spotify, etc. Il y a des services qui vous facilitent un petit peu les choses. Eux, vraiment, ils font tout pour vous, sauf pour Deezer, mais pour les autres, ils vous font tout pour vous. Ils vous rendent la diffusion extrêmement facile, c'est-à-dire qu'en fait ils s'occupent de tout. Votre podcast est référencé par défaut, une fois que vous le mettez en public, vous pouvez le faire référencer sur iTunes, bien évidemment, Google Podcast, Spotify, vraiment, et puis ça prend que quelques heures, voire quelques jours, et puis ils l'ajoutent sur d'autres plateformes. Il y a en fait, alors ils disent qu'ils le mettent sur 10 plateformes, mais grosso modo, ils vous permettent très facilement de l'enregistrer sur certains catalogues que je viens de citer, puis d'autres catalogues en plus, et puis après sur la page d'écoute du podcast, ils vous mettent des raccourcis pour pouvoir l'ajouter facilement dans Pocket Cast, Overcast et d'autres logiciels d'écoute, que la personne, en cliquant juste sur un lien, ça lui ouvre l'application et elle peut s'abonner très facilement. C'est assez bluffant la vitesse à laquelle ils référencent hein, les podcasts sur les plateformes. Je vois, j'ai attendu presque 2 mois pour que le podcast Votre Coach Web soit référencé sur Spotify. Et eux, le podcast Kilomètre 42, ils me l'avaient référencé sur Spotify du jour au lendemain. Oui, vraiment du jour au lendemain. Alors, il peut y avoir quelques jours de battement. Si vous lancez un podcast, prévoyez ça. Si vous voulez que votre podcast soit lancé à une date très précise, il faut, c'est important, pour qu'il puisse commencer à le référencer, il faut que vous ayez enregistré un épisode. Ça veut dire qu'il faut que vous mettiez au moins un teaser ou un pilote ou je ne sais quoi, que vous le mettiez un petit peu à l'avance pour que votre fichier, pour que le fichier puisse être diffusé à droite à gauche, que le flux RSS, parce qu'il génère un flux RSS pour vous, mais vous ne voyez pas, soit diffusé à droite à gauche. Une fois que c'est fait, votre podcast, vous pouvez l'annoncer. Mais si vous devez dire au 1er octobre, mon podcast est lancé, ne le diffusez pas au 1er octobre sur la plateforme, sur encore.fm, parce que sinon, il ne sera pas diffusé partout. Prévoyez juste une petite marge. Alors, bien sûr, là, je suis en train de vous présenter un outil qui paraît parfait. Tout n'est pas parfait, franchement. Il y a quelques petits trucs, hein, mais vraiment, si on voulait être un petit peu tatillon, mais quand même, je vous en donne. Le player est un peu limité, je trouve. Il est sympa dans l'affichage. Oui, il est sympa dans l'affichage, mais en fait, il a un poil limité dans les fonctions, dans la personnalisation. Notamment, vous pouvez l'intégrer sur un site facilement, votre player d'épisode. Par contre, vous n'avez pas de player qui vous permet d'afficher toute la liste de tous vos épisodes. C'est-à-dire que le player que vous allez intégrer va systématiquement, il va afficher le dernier épisode, et puis il va passer d'épisode en épisode, si vous voulez. Mais vous n'avez pas un petit fichier, un moyen d'intégrer dans votre site, juste la liste de tous les épisodes que vous enregistrez avec des liens directs vers les fichiers. C'est une demande que je leur ai faite, ils m'ont dit qu'ils travaillaient dessus, que c'était quelque chose qu'ils devraient ajouter prochainement, mais ça, c'est une fonction qui n'est pas encore présente. La page du podcast qu'ils vous génèrent sur leur site à eux, vous avez une adresse, hein, vous faites encore.fm/km42 dans mon cas, vous tombez sur ma page de podcast personnalisée. Enfin, personnaliser pas trop en fait, c'est ça où vous avez une limite. Je n'ai pas trouvé par exemple de pouvoir faire pointer un nom de domaine dessus pour dire tiens, si j'avais un kilomètre42.com, je pourrais faire la pointer dessus. Vous voyez, on a des petits trucs comme ça, on peut pas personnaliser vraiment l'affichage, mettre des belles images, etc. Mais je pense que ça va finir par arriver pour qu'on ait une page de podcast un peu plus personnalisable. Encore, c'est aussi faire des petites vidéos pour partager facilement sur les réseaux sociaux vos podcasts. C'est super intéressant. Alors ça vous fait... Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis en place un système qui transforme l'audio en texte. Alors, je vous avoue que le résultat a été assez aléatoire dans un de mes tests. J'ai fait un épisode sur un trail, hein, sur mon dernier trail que j'ai couru. J'ai voulu faire un export d'un segment et le résultat était vraiment catastrophique. J'avais pourtant souvenir de tests où le son était où c'était meilleur. Alors est-ce que ça vient du son? Est-ce que ça vient de la manière dont j'ai parlé? Est-ce que c'est qu'il a rien compris finalement entre les termes running, trail et compagnie, qu'il a pas trop su se positionner sur la langue? Je ne sais pas. Il faudrait que je refasse des tests. Notez quand même que c'est une fonction qui ne fonctionne, c'est le cas de le dire, que sur des segments courts. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre un fichier audio qui fait 10 minutes et lui demander de retranscrire les 10 minutes du fichier audio qui vous transforme ça en vidéo, comme je le fais par exemple avec Spreaker, ou comme on le ferait avec Ophonic dont j'avais déjà parlé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez exporter un bout d'audio en vidéo, il faut découper votre fichier en segments et garder le segment audio précis que vous allez exporter pour que lui le transforme ce bout de segment là en petite vidéo. Alors c'est complètement transparent parce que finalement même si vous enregistrez un fichier qui fait 10 minutes, vous coupez juste la minute que vous voulez en segment vidéo. Lui de toute façon il met pas de transition entre, tout s'enchaîne, il n'y a pas d'effet ou quoi que ce soit, donc c'est totalement transparent cette histoire là, donc c'est pas vraiment un problème. Mais je vous le dis, c'est l'une des fonctions dont il faut un petit peu comprendre le fonctionnement pour vraiment s'en servir à fond. L'autre petite limite, c'est que vous créez un compte n'héberge qu'un seul podcast. Alors ça fait partie des limites qu'on a classiquement, hein, c'était le cas de la plupart des services. Je vous rappelle que sur Instagram, un compte égale un flux de photos. Ils ont mis très longtemps pour que l'application puisse se connecter sur plusieurs comptes. Sur YouTube, vous ne pouviez créer au départ qu'une seule chaîne, hein. Si vous voulez deux chaînes, il fallait deux comptes. Et bien sur podcast, encore, si vous voulez deux podcasts, il faut deux comptes. C'est d'ailleurs ce que j'ai, hein. J'ai un compte Bertrand Soulier, puis j'ai un compte Kilomètre 42. C'est un peu chiant. Alors autant sur ordinateur, c'est facile, hein, vous déconnectez, vous reconnectez, vous changez, vous avez deux navigateurs ou trois navigateurs si vous avez plusieurs ou plusieurs sessions, vous savez, ou des sur Chrome, vous pouvez avoir des sessions différentes pour différents utilisateurs. Sur mobile, c'est un peu plus pénible parce que ben, il faut vous déloguer, vous reloguer, etc. Je trouve ça plus pénible. Mais bon, ça se fait, hein. Franchement, voilà, si vous voulez avoir plusieurs podcasts dessus, eh ben, il suffit de vous dire, il y a un moment donné, je me logue sur le bon podcast et je publie. Reste en fait, autour de Encore.fm, un des questionnements, alors c'est un outil qui est adopté par pas mal de monde, et un questionnement qui revient beaucoup sur leur business model, parce que finalement, ils vous font rien payer. Vous dites, mais comment ils font pour gagner de l'argent? Alors, on pourrait penser, et au début je pensais que leur business model, ça serait de mettre des fonctionnalités payantes. Par exemple, de dire, bah, le petit segment sonore à la fin, ils nous font payer pour qu'on l'enlève. Ou alors, ils vont nous mettre des pubs à l'intérieur, un petit peu à la façon de YouTube, puisqu'ils se présentaient finalement comme un YouTube du podcast. Et puis, ils vont nous mettre des pubs au milieu, et si on veut ne pas avoir les pubs, on paye. Et puis, en fait, on se rend compte que non. Alors, ils ont fait quelques explications sur le sujet. Déjà, d'une part, c'est une société qui a levé beaucoup d'argent, hein, on parle là en millions de dollars à l'échelle américaine, même pour les Américains, il y a quand même des grosses sommes qui ont été levées pour monter un service très très costaud. Et puis ils ont dit qu'en fait, héberger un podcast ne leur coûte que 10 centimes par mois. Ils vous disent que quand vous payez un hébergement à 10 euros par mois de votre podcast, bah finalement le mec il se fait du business sur votre dos, alors que nous ça nous coûte que 10 centimes, donc ils nous disent très clairement, on n'a pas besoin de vous faire payer le podcast, on n'a pas besoin de vous faire payer l'hébergement, on veut démocratiser le podcast, et on veut que les podcasteurs ne payent plus l'hébergement. Alors, la question est d'où ils vont prendre l'argent. Alors, la piste qui se dessine tout de suite, c'est qu'en fait, ils veulent se financer sur la monétisation des podcasts par le créateur lui-même. Ils ont ajouté récemment, cet été, une fonction qui est semblable à Patreon ou Tipeee. Hein, vous savez, vous pouvez soutenir le podcast Votre Coach Web sur Patreon ou Tipeee. Eh ben, vous pourriez soutenir, si je l'avais mise en place, soutenir mon podcast sur la course à pied par directement à l'intérieur de Encore.fr. C'est-à-dire qu'en fait, le créateur active la fonction, il y a un bouton support podcast qui apparaît, et on peut fixer des paliers hein, possibles. Alors c'est 99 centimes, 99 centimes de dollars, 4,99 ou 9,99, c'est trois paliers qu'on peut fixer, et encore prendre une commission dessus, seulement 4,5%, parce que c'est bien moins que ce que prend Google pour afficher des pubs sur YouTube. Quand vous avez une bannière qui s'affiche sur vos vidéos YouTube, en fait, eux, ils gardent peut-être 50% de la mise, et encore, je dis 50%, mais c'est beaucoup plus sur certains cas. Y a des cas où ils prennent moins, enfin bref, c'est un peu compliqué, c'est un peu obscur. Là, ils vous disent 4,5%, alors ça veut pas dire qu'il vous reste 95% de la somme, parce que derrière, il y a des frais de transaction, ils passent par Stripe, qui prend des frais de transaction, il y a des frais de virement sur votre compte, etc. Mais j'ai fait un calcul par rapport à ce qu'ils ont affiché, il vous reste un peu moins de 80% de ce que vous donne une personne. Voilà, on va dire que si vous faites payer, c'est l'exemple qu'ils donnent, hein, si vous faites payer 4,99$, il vous reste 3,92$, je crois, quelque chose comme ça, donc vous perdez 1$ au passage. Mais en fait, c'est pas que eux vous prennent un dollar, c'est qu'en fait, il y a au passage, il y a des commissions Stripe, il y a des commissions de virement. Hein, si vous utilisez Stripe, vous savez qu'il y a des commissions qui sont prises quand les gens payent, vous donnent de l'argent via Stripe, hein, et ben ils vous facturent le service. Mais c'est tout simple, hein, c'est qu'un commerçant, quand il vous prend votre carte bleue, il paye aussi des commissions. Nous, sur la boutique en ligne de thé qu'on a avec ma femme, quand on encaisse des paiements, que ce soit par Stripe, par PayPal ou quoi que ce soit, on a des commissions pouvoir que le paiement se fasse. Et ben Stripe le fait pareil, et donc encore, ben, quelque part, c'est logique, vous les refacturez, c'est pas eux qui les supportent. Mais on peut penser que ce petit pourcentage qu'ils prennent, puisque finalement ils disent que l'hébergement ne coûte rien, il suffit qu'il y ait une infime fraction de gens qui financent leur podcast par le biais d'Encore, et donc eux ils récupèrent 4,5% dessus pour arriver à financer l'ensemble. On est dans le modèle du freemium pur et dur. C'est le modèle, vous savez, quand on l'a étudié, si vous avez lu des livres comme Free, par exemple, de Chris Anderson, qui vous montre que faire du gratuit, on peut en vivre très bien. C'est par exemple le cas à une époque de Flickr, où on estimait que s'il y avait 1% des gens de Flickr qui prenaient un abonnement payant, ça permettait de supporter l'hébergement des 100% en fait de gens, donc des 99% de gens qui ne payent pas. Vous voyez, ou 2% ou 3%, et ben 4,5% la commission. S'il y a des, en plus, il faut voir un petit peu, hein, s'il y a des gros podcasts, s'il y a des gens importants qui viennent dessus et qui lèvent enfin qui ont beaucoup d'argent qui viennent par ce biais-là, et ben forcément ça va permettre de financer les podcasts des petits. Et c'est important de le signaler parce que dessus, ils vont essayer d'attirer des créateurs prestigieux. Alors ils en ont attiré un très très beau, c'est Casinestat, hein, le youtubeur à 10 millions d'abonnés sur sa chaîne, a créé un podcast avec sa femme, hein, c'est Thérapie de couple. Alors je sais plus comment il l'appelle exactement, mais c'est un petit peu le principe. Vous voyez bien qu'ils ont des moyens techniques importants, ils enregistrent ça avec une table de mixage classique, etc. Mais il est diffusé via Anchor. Et on pourrait dire que si Casinestat a pu activer un bouton de paiement dessus, s'il avait des centaines de milliers d'abonnés, qu'il y en ait qu'un petit pourcent qui donne, mais qui donne chaque mois, je sais pas, un dollar, et qu'il lève facilement, enfin qu'il lève, qui reçoit, qui récolte quelques milliers de dollars tous les mois, et ben ça paierait facilement des milliers et des milliers d'hébergements de podcasts de gens qui, comme moi, n'ont pas beaucoup d'audience, hein, sur leur podcast Kilomètre 42 ou sur nos podcasts personnels ou tous ceux qui font du streetcast, etc. et qui se reconnaîtront et qui ou qui ont envie de se lancer dans le podcast et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Voilà, c'est un Anchor.fm a fortement évolué. Se fait une très très belle place en tant qu'outil vraiment de production, d'hébergement, de diffusion de podcasts. Si vous voulez vous lancer dans le podcast, si vous ne voulez pas vous embêter avec la technique, la technologie, si vous voulez pas payer des frais d'hébergement ou quoi que ce soit, on sait pas combien de temps ça va durer, certes, hein, mais pour l'instant le modèle me semble un modèle qui est assez intéressant et pérenne s'ils arrivent à convaincre assez de gens d'activer cette fonction de support et si les gens acceptent de payer pour du podcast. Mais après tout, on a beaucoup de podcasts qui récupèrent de l'argent et qui sont financés par ceux qui l'écoutent. Vous êtes un certain nombre à écouter ce podcast et à donner de l'argent pour l'écouter, mais alors que vous n'avez pas besoin de le faire, et je vous en remercie fortement. Et ben si à l'échelle de la planète, des services comme Anchor, mais d'autres services comme ça, fonctionnaient comme ça, peut-être, on pourrait aussi se débarrasser d'une certaine pression publicitaire, parce que c'était un petit peu la crainte que j'avais moi sur Anchor, c'est qu'ils nous foutent des pubs, et qu'ils se transforment vraiment en YouTube pur et dur, avec des pubs avant, pendant et après. Ils sont pas partis sur ce schéma-là, ils sont partis sur un schéma qui me semble beaucoup plus intéressant, et pour moi, vraiment, c'est un service. Je le dis, cet été, on a créé plusieurs podcasts. Je vous raconterai aussi qu'on a créé un podcast sur le thé avec ma femme pendant la sieste de notre fille. Ça sera un épisode de la semaine prochaine, je pense. J'ai testé entre Spreaker, entre d'autres services d'hébergement de podcasts, et vraiment ce que fait Anchor, si vous voulez vous lancer dans le podcast, essayez. C'est vraiment, vraiment complètement différent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un épisode qui était un peu plus long. Mais vraiment, je voulais vous faire un retour. Je vous l'avais dit, hein, je m'accorde, normalement je fais des épisodes de 7 minutes, je m'accorde des épisodes parfois plus longs, hein, des fois je déborde de 2-3 minutes, là j'ai vraiment beaucoup débordé, mais je trouve que c'était intéressant à la fois de revenir sur l'évolution de ce service-là, parce que j'en avais parlé il y a longtemps, il y a plus d'un an maintenant, puisque c'était fin août de l'an dernier, donc il y a un an et un mois, ou ouais, on va dire 13-14 mois, j'en avais parlé, à l'époque. Franchement, je le recommandais pas parce que l'export de podcast était vraiment pas terrible. Maintenant, c'est vraiment un outil très 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 pertinent si vous voulez vous lancer dans le podcast facilement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et aussi un très très bon week-end. Parce que moi, bah oui, demain, je ne serai pas dans vos oreilles. Hein. Demain, samedi et dimanche, je ne suis pas dans vos oreilles parce que vous savez que je ne diffuse désormais plus que du lundi au vendredi. Je n'enregistre d'ailleurs que du lundi au vendredi. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Moi, je continue à préparer mon marathon et ce week-end, j'enregistrerai un nouvel épisode de Kilomètre 42 qui est déjà prêt. Hein. J'ai ma stram. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Ça sera un petit truc, mon petit bonus perso du week-end, vous voyez, en revenant d'une séance de running, ou peut-être ce soir, je ne sais pas, et ben ça sera mon petit bonus, c'est mon petit plaisir à moi, vous voyez, comme quoi on a des petits plaisirs tout à fait égoïstes, mon petit plaisir à moi, c'est d'enregistrer un petit épisode de podcast, comme ça, juste pour me faire plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, une très belle journée, et je vous dis à tous à lundi. Ciao, ciao les créateurs, et ayez de chouettes projets, et allez jusqu'au bout, ne faites pas qu'y penser, réalisez-les. Ciao, ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.